Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 28 septembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran met en garde l'Agence internationale de l'énergie atomique. Des rapports malveillants s'apprend une coopération constructive. Un drone d'espionnage américain au-dessus de Marib a été abattu au-dessus de Marib au Yémen. La Corée du Nord tire un missile balistique, affirme son droit à tester des armes. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'Iran a rejeté une plainte de l'Agence internationale de l'énergie atomique selon laquelle elle s'était vue refuser l'accès à un site nucléaire en violation d'accords conclus plus tôt ce mois-ci, avertissant l'agence que des rapports faux et malveillants perturberaient la coopération constructive entre les deux parties. Il est impératif que les responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique évitent de prendre des positions politiques qui poursuivent certains objectifs et cessent de présenter des rapports erronés et malveillants afin de ne pas nuire au processus constructif créé à la suite des récentes interactions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Les forces américaines renforcent leur présence occupante dans l'est de la Syrie. Elles ont introduit un convoi chargé de matériel et d'équipements militaires et logistiques en provenance d'Irak par le passage illégal d'Al-Walid pour soutenir leur base dans la région syrienne d'Al-Jazira, a révélé l'agence syrienne officielle Sana. Selon l'agence qui a cité des sources locales, le convoi est formé de 50 véhicules, dont des camions congélateurs et des camions transportant des véhicules blindés américains et divers équipements militaires. Le convoi qui est entré le dimanche soir sur le territoire syrien depuis le territoire irakien s'est d'abord dirigé vers l'aéroport de Kharabaldjir et puis il a continué son chemin vers Asaké dans le nord-est de la Syrie et devrait a fortiori se diriger vers la province sud de cette ville où se trouve le siège de la base américaine à Al-Shadadi. Au cours des derniers mois, des milliers de camions chargés d'armes et de matériel militaire et logistique ont été acheminés vers Asaké, où ils s'évertuent à renforcer leur base militaire illégale dans la région Al-Jazira syrienne. Un drone d'espionnage américain abattu au-dessus de Marib. La DCA de l'armée yéménite d'Ansar Allah a abattu un drone d'espionnage américain appartenant à la coalition américano-saoudienne qui survolait la région de Marib. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, a précisé que le drone espion de type en fait de fabrication américaine a été détruit par une arme appropriée alors qu'il effectuait des missions hostiles à Marib. Les États-Unis ont fourni au fil du temps des armes, des renseignements et un soutien logistique aux forces de la coalition d'agression saoudienne qui mène depuis mars 2015 une guerre contre le Yémen. Les factions de la résistance palestinienne ont assuré avoir le droit de réponse aux crimes de l'occupation israélienne après l'assassinat de 5 combattants palestiniens en Cisjordanie et à Al-Quds occupée. Selon le ministère de la Santé palestinien, les 5 Palestiniens sont tombés en martyr par les tirs israéliens, 3 dans le village de Bidour, au nord-ouest d'Al-Quds occupé, et 2 à Burkin, près de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Le Hamas, mouvement de résistance palestinien, a confirmé le martyr de 4 membres de sa branche armée à Bidour. Le djihad islamique a lui aussi confirmé le martyr de l'un de ses membres par les forces israéliennes. Dimanche matin, les forces de l'occupation israélienne ont lancé une campagne d'arrestation dans les villes de Bidour et Beit Hanan à l'ouest de Ramallah, ce qui a conduit à des affrontements avec les Palestiniens, en plus d'incursions et d'affrontements nocturnes à Burkin à l'ouest de Jenin. La Corée du Nord tire un projectile et affirme son droit à tester des armes. La Corée du Nord a tiré de mardi 28 septembre un projectile en mer au moment où son ambassadeur à l'ONU revendiquait le droit légitime de son pays à tester des armes face à la politique hostile des États-Unis et de la Corée du Sud. Selon l'armée sud-coréenne, l'armée du Nord a tiré mardi à l'aube un projectile non identifié au large de sa côte orientale. Un porte-parole du ministère japonais de la Défense a pour sa part déclaré à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que ce projectile semble être un missile balistique. Il s'agit du troisième tir effectué par Pyongyang ce mois-ci. Le premier avait impliqué un missile de croisière à longue portée, le deuxième de missiles balistiques à courte portée. Burkina Faso, l'armée mène des opérations de ratissage suite à des alertes d'exactions dans le centre nord. L'armée burkinabé a affirmé qu'elle mène des opérations de ratissage suite à des alertes concernant des exactions contre des populations civiles dans la localité de Kalagré de la province du Bam dans le centre nord du Burkina Faso. Faisons le point de ces opérations menées du 20 au 26 septembre. L'armée a rappelé qu'elle a identifié et neutralisé 2 engins explosifs improvisés le 24 septembre courant sur l'axe Dori-Arbanda dans le Sahel. Le même jour, l'armée a assuré par les airs le ravitaillement des structures de santé de la même zone en médicaments. Dimanche, l'armée était intervenue suite à la mort d'une femme dans l'explosion d'un engin explosif. Une unité d'intervention de Ouahi Gouya a été dépêchée sur place pour sécuriser les populations et leurs biens. Les opérations de ratissage se poursuivent, indique l'armée burkinabèse. Et au Mali, attendu aux urnes en février 2022 pour les présidentielles et les législatives, les électeurs devront peut-être prendre leur mal en patience. Le Premier ministre de transition n'exclut pas un report du scrutin de quelques semaines ou quelques mois. Chogald Kokalamaiga, en soulignant l'importance de leur crédibilité à un calendrier fixé par la CEDEAO qui ne détient pas forcément compte des réalités sur le terrain. Je pense qu'il vaut mieux organiser des élections apaisé et reconnu par tous que d'organiser des élections avec des contestations au bout qui vont nous conduire peut-être à un autre soulèvement, à une autre transition dont personne ne connaît la fin, a déclaré le Premier ministre malien. Mais une fin que les Maliens connaissent depuis quelques jours, c'est celle de l'engagement militaire de la France dans leur pays. Paris a décidé de réorganiser présence militaire autour d'un dispositif plus serré, une pilule amère pour le Premier ministre malien. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran met en garde l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. L'Iran a rejeté une plainte de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, selon laquelle il s'était vu refuser l'accès à un site nucléaire en violation d'un accord conclu plus tôt ce mois-ci, avertissant l'agence que des rapports faux et malveillants perturberaient la coopération constructive entre les deux parties. Il est impératif que les responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique évitent de prendre des positions politiques qui poursuivent certains objectifs et cessent de présenter des rapports erronés et malveillants afin de ne pas nuire au processus constructif créé à la suite des récentes interactions entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi. Dans un communiqué publié dimanche, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, avait affirmé que l'Iran ne se conforme pas pleinement à une des déclarations conjointes publiées par les deux parties le 12 septembre en refusant à l'agence d'accès au complexe Tessa Karaj, un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses en Iran. Et les inspecteurs de l'AIEA sont autorisés à entretenir les équipements identifiés et à remplacer leurs supports de stockage qui seront conservés sous les sceaux communs de l'Iran et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La manière et le calendrier sont convenus par les deux parties, a indiqué dans son communiqué le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique de l'Iran, Behrouz Kamalvandi. Il a cependant expliqué que la déclaration conjointe a précisé que l'AIEA devait être autorisée à accéder à l'équipement identifié pour l'entretien et le remplacement des cartes mémoire, à l'exception du complexe de Karaj. Grossi et ses collègues savent bien que la déclaration commune ne s'appliquait pas aux équipements de surveillance du complexe de Karaj, car il fait toujours le l'objet d'enquêtes de sécurité à la suite de l'acte de sabotage de juillet à son encontre, a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. En réaction au rapport du chef de l'AIEA, Kamal Vandi a également déclaré que l'Iran avait envoyé une lettre à l'agence pour protester contre cette décision non constructive. Le représentant de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharibabadi, a critiqué lundi l'agence pour avoir gardé le silence sur les attaques terroristes et n'avoir pas publié de déclaration, même pour la menace qu'elle représentait pour ses propres inspecteurs et équipements.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors les États-Unis qui n'hésitent pas à s'immiscer directement dans les négociations françaises en volant des contrats, d'importants contrats militaires sous son nez. Cela a mis en colère la France, évidemment, et particulièrement le ministre des Affaires étrangères et bien sûr le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et a exprimé directement sa colère. Voilà. Alors, dans tout ça, on peut citer bien sûr des contrats concernant la Pologne et l'Australie, concernant bien sûr les sous-marins et la Grèce au sujet des frégates. Alors cela démontre très facilement que cela n'est pas au-delà des critères commerciaux, et on comprend très bien que les États-Unis cherchent à contrer bien sûr les forces du sphère occidentale concernant la politique extérieure. Justement la France, qui a toujours besoin de s'appuyer sur le marché de l'exportation, du marché militaire pour survivre. Nous allons voir ça et faire vivre le débat d'aujourd'hui à l'aide des experts de questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Années, les États-Unis ont suivi ravionner la barbe de la France d'importants contrats de défense, parfois même en pesant pour que le client choisisse à notre prestataire du moment que celui-ci n'était pas français. Qu'il s'agisse des hélicoptères Caracal polonais, des F-35 belges ou suisses, des corvettes qataris ou très récemment des sous-marins australiens, les administrations américaines successives ont démontré une réelle volonté d'empêcher la France d'accéder à certains marchés internationaux, allant jusqu'à mener des opérations massives pour éjecter Paris, comme en Grèce, au sujet des frégates et de la commande de Rafale. Pour certains observateurs, il ne s'agit là que d'une stratégie commerciale opportunément résumée par un business is business qui justifierait l'agressivité dont font preuve les États-Unis face à la France. Toutefois, en observant les stratégies employées et la détermination dont font preuve les États-Unis dans ces dossiers, on comprend que les enjeux dépassent de beaucoup les seuls critères commerciaux pour s'étendre à une réelle stratégie de contrôle des politiques extérieures et de la défense de la sphère occidentale, notamment en Europe, domaine dans lequel la France et ses positions héritées du gaullisme apparaissent comme une entrave, voire une menace pour les États-Unis.
À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau nos deux experts des questions internationales, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
L'équipe, bonjour à votre invité et vos auditeurs.
Un plaisir de vous recevoir, M. Hugon. Un grand bonjour à M. Xavier Dupré, économiste depuis Bruxelles. Merci d'être avec nous, M. Dupré.
C'est moi qui vous remercie. Bonjour à vous.
Tout le plaisir est pour nous. Alors, c'est un débat concernant, bien sûr, les États-Unis, qui ne cesse de s'immiscer dans les négociations directement pour voler sous son nez des contrats importants militaires de la France. Une France qui a besoin du marché, bien sûr, militaire pour survivre. Ma première question va s'adresser à M. Philippe Hugon. Vous êtes un reporter de guerre. On a vu dans le débat précédent, M. Hugon, que vous étiez très en colère contre justement cette faillite financière que suit donc la France. Et justement, et s'ajoute à cela, c'est les États-Unis qui volent sous son nez des contrats importants militaires.
Oui, alors on est plus sous les deux points. Il y a quelques années aujourd'hui, on a choisi l'option du suivi, mais donc il est clair que sur ce contrat de sous-marin, il faut savoir qu'il y a déjà un lien sentimental entre l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre, puisqu'ils ont les mêmes racines, ils parlent la même langue, même s'ils ont quelques différences culturelles, ça reste quand même des pays frères quelque part. Donc, moi, je ne suis pas du tout étonné de ce qui arrive aujourd'hui. Quant au volet financier, il est clair que les Américains n'allaient pas laisser une manne de 53 milliards de dollars aux mains des Français. Donc, ils ont ingéré dans un certain nombre de dossiers depuis une quarantaine d'années de façon à récupérer un maximum de contrats. Vous savez, la société américaine est une société qui est basée sur l'argent, et il n'y a que l'argent qui compte. Le côté sentimental, culturel, historique n'a aucune importance dans ce pays. Ce qui compte, c'est l'argent. Les affaires sont les affaires. Peu importe de ce qui peut découler de cette politique-là. Donc, on n'est pas du tout dans cette même démarche en Europe et en France. D'ailleurs, le général de Gaulle l'avait dit, si on fait rentrer les Britanniques dans le marché commun, eh bien, ça tournera à la catastrophe. Eh bien, c'est une véritable réalité. Ils se sont sauvés des propositions du marché commun, ils se sont sauvés de l'Europe. Ils étaient là uniquement pour profiter de la manne financière que pouvait apporter l'Europe. Il n'y a derrière aucune raison logique et rationnelle. C'est uniquement l'argent qui dirige le système.
Oui, merci. À présent, je m'adresse à M. Xavier Dupré depuis Bruxelles. Vous êtes économiste. Alors, M. Dupré, évidemment, la France est très en colère à l'égard des contrats militaires importants qui sont volés par les États-Unis, surtout récemment. Pourquoi, d'après vous, la France se laisse faire?
Alors, la France ne se fait pas complètement, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'obtenir des dommages de la part du gouvernement australien en ce qui concerne la fourniture de sous-marins. Mais ces dommages ne combleront évidemment pas le manque à gagner qui a été constaté. Alors je crois que la France laisse faire parce que globalement c'est un pays qui a tourné le dos à la doctrine gaulliste d'autonomie de sa politique de défense et d'affaires étrangères à l'égard de l'OTAN. Dès lors aujourd'hui, il se trouve que les États-Unis sont en mesure de damer le pion à Paris, dans son commerce extérieur en ce qui concerne les contrats d'armement. Et Washington le fait sentir de manière très virulente. En ce qui concerne l'affaire australienne et les sous-marins qui finalement ne seront pas livrés par la France, le fin mot de l'explication nous était donné par la presse économique anglo-saxonne. Dit économiste statué dans une édition récente, et concluait sur le fait que, en fait, Paris était en train de payer, et devrait payer et accepter, que, en fait, payer le prix de sa relation trop douce avec Pékin. Donc, quelque part, les États-Unis mettent aujourd'hui la diplomatie française, ce qui reste d'espace d'autonomie de la diplomatie française, sous pression, pour obtenir des concessions géopolitiques majeures. De ce point de vue, il ne faut jamais oublier que du côté des Européens, nous avions un accord global sur les investissements avec la Chine en décembre 2020, et les États-Unis demandaient un droit de consultation, c'est-à-dire un droit d'ingérence sur la manière dont Bruxelles et Pékin aménagerait à l'avenir leurs relations commerciales et leurs flux d'investissement réciproques. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, si nous nous laissons faire, c'est parce que globalement, si Paris se laisse faire, c'est parce que globalement, c'est un pays qui a tourné le dos à sa tradition d'autonomie à l'égard de l'OTAN, tradition gaullienne évidemment. Et de ce point de vue, les États-Unis savent qu'ils jouent toujours plus ou moins gagnant, puisque tôt ou tard, ils veulent, ils désirent imposer un rapport de force et sont en mesure de le faire, dans la mesure où Paris a choisi son aliénation. Nous verrons à l'avenir ce qu'il en sera. Pour l'heure, on voit de la part, très concrètement, les mesures que compte prendre Paris à l'égard de cette éviction d'un contrat très important. Ce sera juste de demander des dommages et intérêts pour une partie du contrat au gouvernement australien. La politique de la soumission volontaire semble appelée à continuer, en tout cas à brève échéance, à moyen terme, en court terme.
Tout à fait. Merci, M. Dupré. À présent, je m'adresse à M. Hugon. Alors, M. Hugon, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, le président français, depuis son arrivée au pouvoir, a fait exactement ce que les États-Unis souhaitaient, faisait exactement donc ce qui était dicté par les États-Unis. Ça, c'est comme le jour. Mais la France se sent très trahie à présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Dupré quand il parle de cela?
Ah, tout à fait. Alors, il faut bien savoir qu'en France, avec Macron, nous n'avons pas un président. Nous avons un sous-président. C'est un costume qui est porté par un cintre. Et le cintre, c'est les États-Unis. Macron n'a aucune conviction. Il n'a intellectuellement, c'est un homme bâté. C'est un homme qui est extrêmement limité dans ses réflexions. On le voit dans toutes les décisions qu'il prend au niveau national et au niveau international. Donc il est clair qu'on n'a plus notre mot à dire depuis déjà une trentaine d'années sur la politique internationale. Non seulement on n'a plus notre mot à dire, mais nous n'avons plus les moyens financiers de pouvoir. Si la France est raisonnable, elle devrait se tourner vers la Russie, vers l'Asie Pacifique, pas seulement pour des raisons militaires, mais également pour des raisons économiques, car il faut bien savoir que dans les 15 ans qui viennent, les États-Unis, comme ils existent aujourd'hui, n'existeront plus. C'est un pays en faillite financière et c'est un pays qui va se fracturer en plusieurs morceaux, en plusieurs petits États. Ce qui sera d'ailleurs une grande chance pour la paix dans le monde, puisqu'ils ne pourront plus ingérer comme ils le font depuis 60 ans et créer des conflits et amener à des millions de morts à travers la planète. Il faut bien savoir que ce système américain est un système basé sur l'argent et aucune autre valeur ne compte. Donc c'est un système qui va forcément s'effondrer. Alors bien sûr, ça va prendre du temps, 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais ça ne tiendra pas à terme. Ce qui est une bonne chose pour la paix du monde, je le répète. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la France n'a plus du tout son mot à dire, elle n'a plus de dirigeants charismatiques, elle n'a plus que des financiers qui sont mis en place par d'autres financiers. Donc quand on part sur ce principe-là, on arrive directement à la catastrophe et on y arrivera dans les années qui viennent.
Xavier Dupré, est-ce que vous êtes d'accord quand M. Hugon parle d'une France qui n'a plus les épaules ni l'envergure pour dominer le marché militaire qui était dans le cas jusqu'à présent? Mais ça, c'est ma première question. Ma seconde, c'est vrai que business is business pour les États-Unis, mais au-delà de cela, nous avons l'impression que cela va au-delà des critères commerciaux et les États-Unis cherchent à contrôler la sphère occidentale et surtout l'Europe dans le marché extérieur.
Oui, alors je commencerai d'abord par répondre à votre première question. Oui. Si la France n'a plus les épaules aujourd'hui pour mener une politique étrangère autonome significative, c'est en partie parce que la France s'est liée les mains. Je rappelle tout de même que les mesures d'austérité qui ont été adoptées dans la foulée de l'adoption de l'euro, de la monnaie unique en 2001, eh bien pendant 20 ans, cela a conduit en France comme ailleurs, dans d'autres pays d'Europe, à une diminution des investissements publics. Donc forcément, lorsque vous vous liez à ce point les mains et que vous diminuez votre capacité d'autonomie et de décision dans des domaines stratégiques qui supposent des investissements publics, comme le militaire, forcément, à terme, vous allez finir par perdre une partie de votre stature internationale pour conclure des contrats d'armement. Là, je crois qu'on est vraiment dans quelque chose qui est structurel. Ça se constate évidemment plus pour un pays comme la France qui avait une grande tradition d'autonomie régalienne, hein, que ce soit en termes de défense ou de politique étrangère, mais dans d'autres pays d'Europe, ça se constate. Évidemment, il y a moins de retombées, ce sont des petits pays, retombées internationales, ce sont des petits pays, mais on constate, et de la même manière, dans la foulée d'adoption de l'euro, une stagnation, voire une diminution des investissements publics. Donc ça, forcément, pour un pays comme la France, cela a un grand impact. À votre deuxième question, je répondrai ceci. Il y a effectivement un aspect commercial. Ce sont des contrats qui sont conclus et effectivement, il y a une concurrence entre différents producteurs qui se trouvent en France ou aux États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique. Cependant, l'adoption de tel ou tel type d'armement ou de choisir telle ou telle filière d'approvisionnement ne relève pas exclusivement d'une logique économique. Et c'est un économiste qui vous dit ça. Ça relève aussi de dimensions géopolitiques. Si l'on revient sur l'affaire des sous-marins qui devaient être livrés à l'Australie, il ne faut surtout pas perdre de vue qu'aujourd'hui, les États-Unis sont très présents militairement. Hein, donc il s'agit bel et bien de US Navy, donc de la marine de guerre américaine, sont très présents en mer de Chine. L'Australie se trouve en position méridionale par rapport à ce territoire stratégique et qui est très disputé, puisque 8 États de la région ne sont pas complètement d'accord sur la délimitation précise des frontières maritimes dans cette zone importante pour le commerce mondial. Donc l'Australie, en choisissant d'acheter des sous-marins à propulsion nucléaire des États-Unis, en provenance des États-Unis, eh bien fait sienne, adopte la doctrine qui est celle des États-Unis aujourd'hui, qui est d'essayer de constituer un front le plus large possible de nations occidentales face à la Chine. Et donc la politique ici étrangère qui est mise en avant par l'Australie et qui est commune avec l'administration Biden, c'est bel et bien une politique de containment et éventuellement de confrontation progressive potentielle avec Pékin. Et ça, ce n'est pas du tout le choix de la France. Et la France paie cash aujourd'hui, finalement, la conception européenne des relations avec la Chine, qui est beaucoup plus une conception basée non pas sur la confrontation, mais sur un dialogue, parfois conflictuel, parfois compliqué, et qui a surtout pour finalité de tenter de définir un bénéfice commun dans les relations d'échange entre Pékin et l'Union européenne. De ce point de vue, et c'est là-dessus que je conclurai mon intervention, il est très très clair que les États-Unis se savent fragiles. Je ne sais pas jusqu'à quel point pourrait aller cette fragilité, mais il est en tout cas certain que cette petite partie du monde qui s'appelle l'Europe occidentale ne pourra plus à terme ignorer la dimension eurasienne des échanges économiques tels qu'elles se profilent à l'horizon. La Chine sera une économie de plus en plus dominante, à l'avenir de plus en plus importante. Il faudra que l'Europe occidentale en tire les conclusions. Et de surcroît, la Russie qui se trouve au milieu du jeu, là aussi, nous devrons en tirer des conclusions pour nous-mêmes, pour notre prospérité en Europe occidentale. Cette Russie-là n'est plus une Russie dominée. Au contraire, c'est une Russie qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale et qui est importante pour notre économie. J'en veux simplement pour preuve qu'aujourd'hui, la construction du gazoduc Nord Stream 2 avec l'Allemagne, qui a besoin de gaz russe, est une réalité. Et personne ne pourra faire marche arrière par rapport à cette tendance structurelle de l'histoire.
Xavier Dupré, quel conseil pouvez-vous donner à l'Europe, justement, une Europe en faillite qui est donc derrière les contrats dominés par les États-Unis? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Philippe Hugon quand il parle d'une Europe en faillite et surtout de la France?
C'est-à-dire qu'il y a un vrai souci en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire que nous devrions progressivement chercher à retrouver des marges de manœuvre sur le plan géopolitique, sur le plan international. Et donc, nous devrions, puisque jusqu'à présent, suite à des manœuvres consécutives aux tensions chez les Ouïghours, notre accord bilatéral d'investissement, accord global avec la Chine, est suspendu au Parlement européen. Nous devons véritablement chercher à sortir de cette influence infligée, qui nous est infligée par les États-Unis, en concluant des accords bilatéraux ambitieux avec la Chine. Il suffit de l'adopter. Les choses ont déjà été écrites et ont déjà été convenues. Et puis, dans un second temps, de revoir globalement notre politique à l'égard de la Russie. Et spécialement, il nous faudra sortir de cette politique de sanctions. À terme, cela permettra aux nations d'Europe occidentale, à nos pays, de retrouver une autonomie par rapport aux États-Unis et de se trouver d'autres clients en ce qui concerne notre industrie de l'armement et plus globalement pour nos industries, puisque nous sommes terriblement en voie de désindustrialisation. Or, il n'y a pas de secret. Si nous arrivons à collaborer avec l'ensemble des nations qui veulent porter un ordre multipolaire, un ordre international multipolaire, nos industries retrouveront des carnets de commandes et des possibilités de développement. Il n'y a pas d'autre solution. Les États-Unis sont en train, quelque part, de nous entraîner avec eux dans leur crise structurelle et dans leur, peut-être, chute d'influence, très probable et très prévisible, diminution d'influence dans l'ordre international pour les années à venir.
Philippe Hugon, nous avons entendu la solution de Xavier Dupré. À présent, j'aimerais connaître la vôtre. Réagissez, je vous prie.
Oui, alors, moi, je voudrais rappeler quand même deux chiffres qui résument bien la situation de la France. En 2007, on avait une dette de 70% du PIB. On est en 2021 aujourd'hui, on est à 118% de la dette du PIB. Les États-Unis sont dans le même cas, hein, et dans une situation encore beaucoup plus préoccupante. Donc je pense que nous allons avoir dans les 5-6 ans qui viennent une crise financière majeure, rien à voir avec celle de 2008 qui était même pas une crise, qui était plutôt une contraction des marchés. Alors si je parle de ça aujourd'hui, on peut gérer et développer un certain nombre de politiques étrangères en fonction des moyens financiers, eh bien, nous, monde occidental, dans sa globalité, je dirais que nous n'avons plus les moyens de pouvoir ingérer dans la politique internationale. Alors, il est clair que la France doit se tourner vers d'autres marchés, c'est pour ça que j'abordais la région, notamment l'Asie-Pacifique et la Russie. Vous savez, question mentalité, l'état d'esprit européen est beaucoup plus proche de l'état d'esprit russe que l'état d'esprit américain, qui est un état d'esprit individualiste et un état d'esprit sur lequel l'argent a détruit absolument toutes leurs valeurs. Il n'y a plus que l'argent qui compte aux États-Unis. Et c'est en train d'ailleurs de devenir le cas en France. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons autant de problèmes aujourd'hui. C'est parce que nous avons tout misé dans une politique de soumission américain qui va nous amener dans une crise majeure. Et il est temps que nous ayons en France un président qui puisse nous démarquer totalement de tous ces petits politiciens sans envergure et qui ont le charisme d'une boîte de conserve et qui nous amènent à des politiques qui sont déplorables puisqu'elles nous amènent à une faillite complète du pays. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Donc il est temps qu'aujourd'hui la France se tourne vers d'autres partenaires et l'Asie-Pacifique et la Russie font partie de ces pays en qui on peut avoir une beaucoup plus grande confiance qu'envers les États-Unis, l'Angleterre ou l'Australie.
Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. Un grand merci à M. Xavier Dupré, économiste du prix Bruxelles, qui nous rejoint donc depuis la Belgique. Merci infiniment. Merci. Alors merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a qualifié de constructif sa rencontre avec son homologue français Jean-Yves Le Drian. Dans un tweet, Hossein Amir Abdollahian a écrit qu'il avait eu une rencontre constructive et progressiste avec son homologue français Jean-Yves Le Drian en marge d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que de son homologue français Jean-Yves Le Drian avait annoncé que son pays était prêt à développer des relations avec l'Iran. Saluant la volonté de la France d'étendre ses relations bilatérales avec l'Iran, Amir Abdollahian a clairement indiqué que le critère de Téhéran était les actes de la France, toujours en fait selon une information publiée par l'agence de iranienne IRNA. L'Iran dénonce un rapport inexact de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'ambassadeur d'Iran et représentant de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a critiqué le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a déploré le refus de Téhéran d'installer de caméras de surveillance pour le complexe de Tessa Karaj à l'ouest de la capitale iranienne. Le rapport est inexact et dépasse les conditions convenues dans la déclaration commune, a répliqué Kazem Ghalibabadi sur sa page Twitter en réponse au chef de l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU. Dans un communiqué publié le dimanche 26 septembre, l'AIE a indiqué que le directeur général de Raphaël Grossi a souligné que la décision de l'Iran de ne pas permettre aux agents d'accéder aux ateliers de fabrication de composants centrifuges de Tessa Karaj va à l'encontre des termes convenus de la déclaration conjointe publiée le 12 septembre. Y réagissant, l'ambassadeur et représentante de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, M. Ghalibabadi, a déclaré que les termes de cette déclaration ont été exécutés avec les bonnes intentions de l'Iran dans le but de remplacer les cartes à puce pour des équipements spécifiques et les procédures ont été achevées au cours de la période allant du 20 au 22 septembre. Il a été clairement indiqué lors des négociations à Téhéran et à Vienne que les enquêtes sécuritaires et judiciaires sur le complexe Tessa Karaj étaient toujours en cours et que les dispositifs de surveillance de ce complexe ne feraient pas partie des équipements soumis au contrôle du service technique de l'AIEA, a-t-il souligné encore. Selon Ghalibabadi, toute décision sur l'Iran concernant l'équipement de surveillance basé uniquement sur des considérations politiques et non juridiques et l'agence ne devrait pas s'ériger le droit de se prononcer dans ce domaine. Il a jugé profondément regrettable que les trois actes de sabotage terroriste dans les installations nucléaires iraniennes au cours de l'année écoulée n'ont jamais été dénoncés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. La bataille de la Syrie contre le terrorisme se poursuit. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que la bataille de la Syrie contre le terrorisme se poursuit jusqu'à la purification de tous ses territoires, assurant que toute agression ou toute pression étrangère ne l'empêcheront de le faire. Dans une allocution qu'il a prononcée devant l'Assemblée générale de l'ONU, Faisal Miqdad a indiqué que l'histoire enregistrera que le peuple syrien n'avait pas uniquement défendu sa patrie et sa souveraineté dans la lutte contre le terrorisme, mais il a également défendu l'humanité entière, assurant que la Syrie œuvre pour mettre fin à l'occupation étrangère de tous ses territoires par tous les moyens garantis par le droit international. Le monde a connu ces deux dernières années des circonstances inédites depuis de longues années, puisque les hôpitaux étaient pleinement occupés de patients. Nous avons perdu des millions de personnes alors que l'économie a détérioré, la pauvreté a augmenté, les villes ont été confinées, les universités et les écoles ont été fermées et nous craignons de nous approcher à cause de la propagation du coronavirus qui menace de coûter la vie à davantage de personnes partout dans le monde, a-t-il souligné encore. Le chef de la diplomatie syrienne a fait savoir que certains pays utilisent la pandémie de coronavirus pour viser d'autres pays au niveau politique et les accuser de créer le virus et adoptent également des mesures économiques coercitives et unilatérales contre un certain nombre de pays et de peuples qui ne suivaient pas leur politique en dépit de tous les effets catastrophiques, en ignorant tous les appels lancés par l'ONU et les organisations humanitaires pour lever et alléger ces mesures. Tout le monde sait que la Syrie était parmi les pays les plus affectés par les actes et les crimes terroristes qui ont été commis par le biais d'un soutien militaire, financier, médiatique et logistique qu'apportent des pays bien connus pour leur soutien au terrorisme qui a abattu des innocents, déplacé forcément les citoyens, détruit les infrastructures, volé les potentiels du pays et provoqué des crises humanitaires dans un pays qui se disait fier des accomplissements que son peuple avait réalisés dans les différents domaines et dans lequel les taux de croissance avaient atteint 9,5% en 2010, a-t-il souligné encore. Miqdad a en outre fait savoir que la Syrie avait sérieusement et positivement traité avec les réunions tenues dans le cadre du processus d'Astana en espérant qu'il contribue positivement dans la bataille contre le terrorisme et dans la stabilisation de la Syrie. Mais le régime turc a fait à chaque fois preuve de son non-engagement aux résultats d'Astana et aux ententes de Sochi relatives à la zone d'Idlib, en plus de son soutien et sa protection des réseaux terroristes qui s'y trouvent, notamment le front à Al-Nusra, inscrit sur la liste du Conseil de sécurité des entités terroristes. Faisal Miqdad a fait allusion aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité perpétrés par le régime turc sur les territoires qui les occupent en Syrie, que ce soit par les politiques de turquisation, le déplacement forcé, l'attaque contre les habitants des zones rejetant l'occupation ou par la coupure délibérée de eau, et ce qui a privé plus d'un million de citoyens dans la ville de Dahasaka et de sa banlieue au ouest. Et Faisal Miqdad a souligné encore, la Syrie réitère sa solidarité totale et son soutien à l'Iran face aux mesures américaines non juridiques et irresponsables qui le visent, en particulier le retrait de Washington de l'accord nucléaire. Le Conseil judiciaire suprême irakien a émis des mandats d'arrêt contre les personnes qui ont assisté à une conférence appelant à la normalisation des liens avec Israël dans le Kurdistan irakien. Le Conseil a mentionné dans un communiqué diffusé par l'agence de presse irakienne les noms de trois personnes contre lesquelles il émet des mandats d'arrêt pour avoir appelé à la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Une action en justice sera intentée contre le reste des participants une fois que leurs noms complets seront connus, ajoute le communiqué du Conseil. La conférence n'était pas représentative de l'opinion de la population ni de celle des habitants des villes irakiennes au nom desquelles ces individus ont prétendu s'exprimer, dit le communiqué. Le bureau du président irakien Barham Saleh, lui-même kurde, a également dénoncé la conférence. Le dignitaire religieux Sayyed Muqtada Sadr exhorte le gouvernement à arrêter tous les participants, tandis qu'Ahmed Assadi, un des députés du Hashd al-Shaabi, les qualifie de traîtres aux yeux de la loi. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi.
Thank you.